Alors, comme vous savez que j'ai des problèmes de transmission de messe que je n'ai pas pu transmettre, je vous fais rapidement la prédication que j'ai faite aujourd'hui. Donc, c'était dimanche, bien sûr, mais c'est également donc la fête de, sur les pays, la fête de Sainte Philomène. Elle était martyrisée, vierge martyre, hier, donc le 10 août. Mais on l'a fête, comme hier c'était Saint-Laurent, on l'a fête le 11 ou le 13, selon les endroits. Et donc, je vais raconter sa vie, parce que c'est une petite sainte qui est fantastique. Vous savez que le 24 mai 1802, on avait redécouvert les catacombes, partie catacombes à Rome. On avait découvert, donc, en creusant dans ces galeries, qui étaient un travail absolument énorme. Enfin, bien de persécution, c'est bien pire qu'aujourd'hui, on vous arrête, on vous tue si vous êtes injecté, c'est ce qui nous attend maintenant. Les chrétiens avaient fait des cimetières, donc des anciens cimetières, il n'y avait que des galeries, avec un travail phénoménal à plusieurs étages, avec des systèmes de lumière pour récupérer, totalement invisibles de l'extérieur, pour pouvoir fuir les Romains des persécutions, dire la messe et enterrer les martyrs, comme les Romains étaient, comme tous les païens, très superstitieux. Les Romains avaient une peur bleue de rentrer dans la catacombe. Donc ils n'attendaient pas, puis ici, ils y rentraient sans guide, ils se perdaient dedans et mouraient. Alors les catholiques avaient justement des guides qui connaissaient très bien les catacombes à plusieurs états, qui faisaient des kilomètres sous Rome. Ces petites galeries, elles ne sont pas très hautes, donc c'était sans aucune lumière, mettez-vous ça, dans lequel il y avait des loculus, des place pour des corps plus ou moins grands dans chaque côté des galeries, et en plus en pleine persécution, avec le risque de se faire enfermer dedans. Et donc le 24 mai 1802, on avait découvert, on avait terminé les travaux de retrouver des corps de martyrs dans les catacombes de Sainte-Priscille à Rome. Et c'était le dernier jour, donc qui avait été décidé par le pape, que c'est le dernier jour, on ne trouvait plus de corps de martyrs, on avait déjà fouillé beaucoup, beaucoup de galeries, et donc les corps des saints martyrs avaient été transportés au Vatican, dans des églises. Et donc c'était le dernier jour des recherches, où les trois fossoyeurs qui étaient des travaux exténuants, qu'il fallait en travailler à la lumière des bougies, ou il n'y avait pas d'électricité à l'époque, dans ces galeries qui étaient très très chaud, très humide, avec le risque que tout s'effondre. C'est un travail absolument héroïque. Et c'était le dernier jour, on ne trouvait plus rien. Et puis finalement, les fossoyeurs, il fallait dégager en plus, à chaque fois le sable qui était tombé dedans, des siècles et des siècles et des siècles, entre le 4e siècle et 1800, il y avait beaucoup de choses qui s'accumulaient. Il fallait enlever ça tout doucement, tout doucement. Et les fossoyeurs, donc les fossoyeurs en train d'enlever les derniers restes, et puis on s'arrêtait au bout de la galerie, c'était fini. Et on doit terminer. Et presque à la dernière minute, un des fossoyeurs a donné un coup avec sa pioche sur un côté du mur, au niveau du sol, il y avait encore du sable, et ça revient sans creux. Immédiatement, il a appelé les autres. Et regardez, allez, écoutez. Et là, il y a une tombe. Il y a une tombe dans le mur, il y a un loculus qui n'a pas été ouvert. Ils ont commencé Ils ont visé tout de suite le responsable, hein, le monseigneur responsable. Et puis, ils ont commencé à gratter tout ça, à enlever le sac qui est accumulé devant cette tombe-là, qui est au niveau du sol, donc. Il y a plusieurs tombes. Et puis, ils ont découvert deux tombes, dont une surtout qui nous intéresse, qui n'avait jamais été ouverte. Il y avait donc trois tuiles qui fermaient cette tombe, sur lesquelles était marqué Pax, alors, Lumina Paxte Cumfi. Lumina pax te cum fi. Oh, qui voulait rien dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis très vite, ils ont compris. C'était en pleine persécution. Donc les Romains faisaient des milliers de morts, de torturés de manière horrible, les saints martyrs qui mouraient pour le ciel, pour être fidèles à Dieu, à la foi catholique. Et ils ont se convoyé dans la fureur des persécutions, il fallait prendre des corps filés dans les catacombes, poursuivis par les Romains, enterrer le corps très vite, et refermer, et donc ils ont inversé les tuiles. Donc, il ne fallait pas lire Lumina Pax tecum fi et pax tecum fi lumina. Vous direz la paix avec toi, fille de la lumière, Philomène, fille de Luminis. Il en visait immédiatement, et donc le jour après, immédiatement, les médecins, les légistes, il n'y avait pas de photo à l'époque, il fallait faire des croquis tout de suite de chaque étape qu'on allait faire pour ouvrir et voir le corps qu'il y avait dedans. Et donc, quand tout était prêt, et comme on pouvait, on a enlevé la première tuile qui fermait l'entrée, qui fermait ce catacombe, ce l'oculus dans le mur de la catacombe. Et on a vu que sur les trois tuiles, il y avait donc ces paroles-là, Pax tecum Philomena. Il y avait également dessiné une palme, une fleur de lys, un fouet romain, une ancre, une flèche vers le haut, deux flèches vers le bas. Alors, pour ceux qui connaissaient un peu l'histoire des martyrs, ben c'est assez clair comme symptôme. Ils ont été stupéfaits, en voyant, attends, une palme, donc c'est une martyre, une fleur, donc c'est une vierge, vierge et martyre, une sorte de lys, c'est la pureté. L'encre, c'est la foi où elle était jetée dans le Tibre avec l'encre, donc quelque part avec une encre au cou. Le fouet romain, il a été flagellé. La flèche vers le haut, deux flèches vers le bas, c'est vraiment, il y a un miracle. Une première fois, les flèches ont dû aller la toucher, deuxième fois, les flèches sont revenues en arrière. Et donc, on a tout doucement ouvert la tombe, et on a découvert, tout le monde est tombé à genoux, on a découvert le corps d'une jeune fille, avec son squelette, évidemment, uniquement un squelette entièrement conservé, avec des restes de tissu qui montraient qu'il s'agissait d'une princesse royale. Et on a découvert, et alors, en enlevant ensuite tout doucement ces trois plaques qui fermaient l'entrée fermaient l'oculus, on a découvert que à l'intérieur de la tombe, il y avait un vase, petit vase de cristal ou de terre, mais de valeur très précieuse, qui contenait du sang, et ce vase qui avait été mis à l'intérieur de la tombe quand on l'avait fermé, le ciment n'avait pas été touché depuis le 4e siècle, depuis 300, 303, et quand on a ouvert la tombe, la moitié du vase s'est cassée et restait prise avait été prise dans le ciment qui avait été mis, et donc cette fiole s'est cassée, s'est coupée en deux dans le centre de la hauteur, et on s'est rendu compte qu'elle était une petite fiole qui était pleine de sang séché. Et donc il n'y a plus aucun doute possible, on était devant une vierge et martyre. Il y a une grande persécution. Les chrétiens qui réussissent à récupérer le corps en soudoyant les soldats ou les bourreaux, pour bien montrer aux générations suivantes qu'il s'agissait d'une petite sainte, ont récupéré un peu du sang du martyr, comme mangé par les lions, ou décapité ou torturé horriblement, qu'on mettait dans une petite fiole, qu'on mettait à l'intérieur de la tombe, pour que les générations suivantes sachent à qui ils avaient affaire. Et à ce moment-là commence le premier miracle de Sainte Philomène. Dès qu'on a ouvert la tombe et on a découvert cette chose, immédiatement ce sang s'est mis à jeter, comme une lampe de discothèque, vous savez, à jeter des éclats de lumière de toutes les couleurs dans toute la catacombe. On n'avait jamais vu ça. Donc il dit, ben, ça c'est vraiment une très grande sainte. Ensuite, tout doucement, ils ont monté le corps et les médecins ont dit, bon, s'il s'agit d'une jeune fille, ça se voit aux os du corps, entre autres du bassin. Elle a été décapitée, on voyait la vertèbre qui avait été entamée. Et elle avait, selon le cartilage, etc., elle avait autour de 13 ans. Voilà. Ensuite, ses corps ont été portés dans la salle des reliques au Vatican, etc. Puis, pratiquement, elle disparaît. Pas que Philomène, aucun texte des notaires apostoliques des premières grandes persécutions ne parle d'une Philomène. Il y a un autre Saint Philomène, mais elle n'était pas connue du tout. Et un beau jour, finalement, il y a un bon, je passe les détails, un prêtre de Naples, qui n'était pas un bon prêtre d'ailleurs, voulait récupérer un corps de vierge martyre pour son oratoire personnel, pas pour sa paroisse, qui n'était pas du tout digne d'un prêtre, ce raisonnement-là. Et finalement, grâce à un évêque, grâce à un ami évêque, il a pu récupérer, après beaucoup de difficultés, il a pu récupérer le corps de Sainte Philomène qui avait été découvert quelques semaines plus tôt, quelques mois plus tôt. Et il voulait l'emmener discrètement, pour ne pas attirer l'attention, discrètement, de nuit, faire prendre le voyage tout doucement avec une charrette C'est en 1802 ou 1803, 1804, un petit peu après, l'emmener jusqu'à Naples, où il avait sa paroisse. Exactement, sa Mugnano del Cardinale, près de Nole, Naples. Et le Bourdieu n'entendait pas du tout de cette oreille-là. Il n'aime pas quand on fait des choses que pour soi, en général. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, les bœufs qui ont transporté ça ont chuté de partie. Quand ils sont partis, le corps était devenu tellement lourd qu'on n'a pas réussi à le bouger. Tout le monde s'est précipité. Et donc le prêtre a dû confesser ce qu'il voulait faire. Je voulais prendre ce corps que pour moi. Il n'est pas question. Et le Saint Philomène a commencé à faire des miracles. Et les bœufs repartaient quand ils voulaient. Ils s'arrêtaient après 300 mètres ou 500 mètres. Les gens se précipitaient. Et donc, quand ils sont arrivés après 200 km de Rome à Naples, je vous dis pas, il y avait un monde absolument fou qui ont suivi. Et donc, le prêtre était obligé par le bon Dieu de mettre le corps de la sainte dans l'église. Non pas dans sa maison privée. Et elle a commencé à faire des miracles à ne pas finir, à tel point qu'en 1836 ou 37, je crois que c'est ça, il me semble que le pape était Benoît XVI, Benoît, pardon, Benoît XV, qui est Grégoire, je ne m'en rappelle plus maintenant, j'ai un trou de mémoire, peu importe, l'a canonisé, tellement fait de miracles, un miracle entre autres auquel assistait lui-même le pape, justement, dans la personne de Pauline Jaricot, qui est arrivée, qui a une grande dévotion, qui avait entendu parler de Saint-Philomène, était en train de mourir, et quand on détruit entièrement en agonie, plus de là que de là, elle a été guérie par miracle d'un seul coup en touchant la relique de Saint-Philomène. Et le pape, qui avait été témoin d'elle en la voyant mourir, mourant avant, a dit, je serai le premier témoin de ce miracle. Ce qu'il a fait. Et donc, c'est la première sainte et la seule sainte du paradis, à ma connaissance, qui a été canonisée sans savoir absolument rien d'elle, uniquement pour la puissance et le nombre de ces miracles absolument incroyables. À tel point que Sainte Philomène a été appelée et est toujours appelée la grande thaumaturge du 19e siècle et du 20e siècle. Regardez toutes les familles traditionnalistes, il y a toujours une petite Philomène dedans. Quand j'ai fait tout ça sur Naples, à Naples, partout, parmi les personnes âgées, qui étaient, un peu après la canonisation, beaucoup, beaucoup s'appelaient Philomène. Voilà. Et donc, beaucoup de gens priaient pour ça, mais qui est cette petite, mais Sainte Philomène, s'il vous plaît, on ne sait pas, vous faites tellement de miracles, on ne sait pas du tout qui vous êtes. S'il vous plaît, révélez-vous à quelqu'un, faites-nous savoir par une vision, faites savoir qui vous étiez. Et la Vierge Marie a écouté cette prière-là de ses enfants de la terre. Et Saint-Philomène est apparu. Si je me rappelle bien, c'était le même jour, à trois personnes différentes qui ne se connaissaient absolument pas. Un était un prêtre, l'autre disons qu'une religion, on peut dire comme ça, qui avait fondé un espèce d'ordre laïque, disons, des sœurs de Sainte-Philomène, et un monsieur qui était, je crois, un cordonnier, qui est marié avec des enfants. Et aucun d'entre eux ne se connaissait absolument pas entre eux. Et tous les trois, au même moment, ont eu l'apparition de Sainte-Philomène, qui leur a dicté, qui leur a raconté sa vie. La voici, à peu près, je vous la lis à mémoire. Elle a donc dit, voilà, je suis Philomène, et je suis né un 10 janvier, donc c'était exactement 297, princesse grecque. Mes parents étaient rois et reines d'un petit état du grec, on peut penser que c'était Corfou, et mes parents étaient païens, donc ils adoraient des idoles, les démons. Mais ils avaient une très grande piété, très généreux, pour aider les pauvres, etc., les personnes qui avaient besoin. Et donc ils faisaient beaucoup, beaucoup d'aumônes. Et beaucoup de prières à leur faux Dieu pour obtenir une descendance, parce qu'ils n'arrivaient pas à concevoir, à avoir un enfant. Et le médecin donc du roi et de la reine, qui était lui catholique, et caché, manière cachée, parce qu'on est dans le transition, les grandes persécutions romaines, voyant la piété de ces. Eu pitié de ces pauvres rois, de ces pauvres reines, et finalement, pris son courage à deux mains, elle leur a parlé. Dit voilà, je suis catholique, je suis chrétien. Et si vous priez, vous êtes une grande générosité, vous priez les faux dieux, les idoles, etc. Mais si vous vous convertissez et croyez au unique vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, un seul Dieu, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, vous faites baptiser, Dieu vous enverra une descendance. Et alors, ils ont été stupéfaits. Ils se sont informés sur l'info catholique, avec ce médecin puis des prêtres, et finalement ils ont dit, c'est vrai, la seule vraie religion c'est celle-ci, ils sont fait baptiser, et à peine baptisée, la reine est conçue. Et elle a eu cette petite, que les parents appelaient fille de la lumière, lumière qui est Jésus-Christ, la vraie foi catholique. Donc, philumena en latin, fille de la lumière. Ensuite, la Sainte Hélène continue en disant, à l'âge de 5 ans, j'ai fait la première communion, qui était extrêmement rare, surtout à l'époque en pleine persécution. Et ensuite, toute ma vie, jusqu'à 13 ans, j'ai reçu la Sainte Hostie, la Sainte Communion, tous les jours de ma vie. Ce qui est absolument une chose absolument extraordinaire qui montre la puissance du Saint-Sacrement et l'amour de Dieu pour cette petite. Et puis un beau jour, ben, vous savez, quand entre-temps c'était l'Empire romain, dans la puissance de l'Empire romain, ils ont voulu envahir ce petit royaume de Grèce qui restait là. Et évidemment, la puissance, un éléphant furieux comme l'Empire romain, en face un petit roquet, un petit chien de rien du tout, le petit roi, petite reine de Grèce, il n'y avait rien à faire contre les Romains, qui voulaient attaquer le royaume. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il dit, je ne peux pas résister au point de vue homme, on est beaucoup trop petit. Il a décidé d'aller à Rome avec la reine et sa fille, dont il ne se paraît jamais, pour aller parlementer sur les conditions de la paix avec Dioclétien, qui était un terrible persécuteur, très violent, très terrible persécuteur, qui a vu énormément de miracles de martyrs, dont il ne s'est jamais converti. Son épouse est une sainte, sainte Serena Prisca, qui sera martyrisée d'ailleurs par son mari, à peu près. Il a eu trois filles, plusieurs enfants, dont trois qui sont également vierges martyrs. Donc, on voit même chez les persécuteurs, très souvent chez les grands persécuteurs, l'épouse était catholique et les fils et les enfants étaient catholiques discrètement. Et souvent, sont morts martyrs. Donc, il ne faut jamais désespérer. Le bon Dieu touche chaque âme, même aujourd'hui. Ensuite, cette Saint-Philomène continue dans sa vision. Elle expliquait bien ce qu'elle a fait. Ils ont été à Rome, il a commencé à parler. Et vous savez qu'à peine l'empereur l'a reçu, l'empereur, donc Dioclétien, a vu la beauté de la petite princesse. Alors, les pères de l'Église et nos thérapeutes nous disent que les jeunes filles catholiques, les femmes catholiques, étaient extrêmement belles. Ce n'était pas le cas du tout des Romaines ou des Perses, etc., qui étaient les Romains méprisaient complètement la femme, comme les musulmans, ils méprisaient complètement la femme. Donc les femmes, elles étaient couvertes de kilos de peinture et elles n'avaient aucun respect de la part des hommes, évidemment. Aujourd'hui, ça revient encore plus terrible. Et les jeunes vierges, j'ai marqué, donc les jeunes femmes catholiques, les jeunes filles, irradiaient cette beauté parce qu'elles étaient incarnées de Dieu. Elles étaient, comme Dieu veut, avec Jésus, à la grâce de Dieu dans leur cœur, Dieu dans leur cœur. Et donc cette beauté intérieure irradiait sur la beauté extérieure. C'est pourquoi également aujourd'hui, pourquoi les stars de cinéma sont affreuses. Les jeunes filles qui sont mal vêtues, etc., elles ne sont pas belles du tout. Elles excitent, mais elles n'attirent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont mortes dedans. Or, la beauté extérieure n'est qu'un reflet de la beauté intérieure. C'est pour ça que les Romains, les empereurs romains, surtout, les Juifs, tombaient très vite amoureux des catholiques, des jeunes filles catholiques, parce qu'elles irradiaient une lumière que les autres n'irradiaient pas du tout. Bien au contraire. Et maintenant, tandis que le père, donc le Philomène, parlait devant l'empereur, l'empereur n'avait de regard que pour elle, il tombait amoureux d'un amour très, très impur, évidemment, d'elle, parce qu'elle était très belle. Il a dit au père, ok, ça va, j'ai compris, la paix, ok, aucun problème, c'est fini, il n'y a pas de guerre, mes troupes sont à vous, les vôtres sont à moi, mes hommes sont à moi, mon argent est à vous, etc. Vous êtes alliés de Romains, il a fait venir tout le général, général, stop, on arrête la guerre contre ce royaume, on ne fait pas, on n'attaque pas, ce sont mes alliés. À une condition. C'est que vous me donniez en épouse votre fille. Les parents tombent des nues, évidemment. Et des catholiques, moi, ils disent, attends, c'est extraordinaire. Et Philomène dit, mais papa, maman, vous ne pensez pas. Elle avait fait vœu de chasteté, donc tenir son corps virginal uniquement pour Jésus, son cœur, à l'âge de 5 ou 7 ans. Ses parents le savaient. Et puis, il dit, attends, on va demander à la princesse qu'elle en pense. Dioclétien leur a donné deux, trois jours. Et ses parents ont tout fait pour la faire accepter. Il dit, mais vous n'avancez pas, a répondu la petite sainte. D'abord, un, j'ai fait mon vœu de te je me consacré à Dieu. Et Jésus est Dieu, c'est mon maître et c'est mon époux. Bien. Deuxièmement, ce Dioclétien est un monstre d'horreur, de persécution anticatholique. Donc il n'est pas question que je renie ma promesse, même mon offre de moi-même à Dieu pour épouser un homme de la terre. Fût-il un empereur, c'est-à-dire rien du tout devant Dieu. Et les parents ne savaient pas comment aller affronter le Dioclétien avec ce refus, évidemment. Dioclétien est fait récupérer par ses soldats. Ils l'amènent devant lui. Et là, Philomène est obligé de se piquer. Il dit, je vous remercie de votre attention envers moi. Je ne peux pas accepter, je suis déjà promise. Comment vous êtes promise? Si, je suis catholique. Et comment vous adorez un Dieu, un homme que nous, on avait crucifié, etc. J'ai consacré ma virginité à lui, et c'est mon époux, je ne veux pas vous épouser. Je ne peux pas. Parce que je veux être fidèle à Dieu. Mais, eh bien, l'empereur était furieux, évidemment, c'était pas la première fois que ça lui arrivait de voir des miracles et des grand martyr comme ça. Et il fait tout ce qu'il peut pour le convaincre. Il l'a fait emmener dans son palais et il lui montre toutes les quêtes, les immenses penderies avec des robes luxueuses, etc. Il dit, ça c'est pour vous. Et puis toutes les trésors de joyaux, ça c'est pour vous. Et tout. Philomène ne regardait pas un coup d'œil, elle prit, tant même donner un coup d'œil à ces choses-là. Vous vous rendez compte d'une jeune fille à qui arriverait une chose comme ça, dire, tiens, tu as marqué le coup sur un chanteur ou une star de cinéma, il veut te marier, ou la reine d'Angleterre, et il veut te marier avec toi. Vous connaissez beaucoup de jeunes filles qui refuseraient, ben elle va refuser. Il n'interdit rien, c'est le ciel qu'il faut gagner. Il faut aller. Et puis, donc elle a refusé. Et lui, le chrétien dit, bon, vous voulez pas comprendre avec les bonnes, vous comprendrez avec les mauvaises. Il l'a fait enfermer pendant 40 jours dans un cachot. Au pain et à l'eau. Étant princesse, après 3 minutes, 3 heures, elle va pleurer comme une petite madeleine, elle va venir me demander de la prendre pour épouse. Bon, manque de peau, ça n'a pas marché. Saint-Sylvain a tenu le coup pendant 35 jours. Et Dioclétien allait tous les jours la voir pour la convaincre, la pousser, et la résister avec une force incroyable que lui-même ne comprenait pas. Et le 37e jour, la très sainte Vierge Marie lui est apparue à Saint-Philomène, dans sa prison, en lui disant, Philomène, ma fille, puisque sur terre vous n'êtes jamais dit non à mon fils, mon divin fils, lui ne vous dira jamais non en paradis, pour tout ce que vous demanderez donc. Et puis elle lui a dit, voilà, 3 jours maintenant, vous allez être torturé, mais je serai à côté de toi, je t'accompagnerai toujours, et avec la grâce, avec Dieu, il vous donnera la grâce. Et heureusement que Saint-Philomène, cette terrible, terrible parole, une grande tentation du démon, mais elle avait 13 ans. Les tortures, elle entendait les hurlements des autres autour d'elle, dans les prisons où elle était. Ben, elle acceptait, elle dit, ok, oui, j'accepte. Mon Jésus, vous êtes mort pour moi, je mourrai pour vous. Et puis elle a été torturée en présence de Dioclétien lui-même, évidemment, qui l'a fait d'abord flageller, et pour la détruire de sa beauté, furieux. Renvoyé en prison, Jésus l'a guéri complètement et l'emmène à reparaître devant l'empereur, devant ce Dioclétien, plus belle que jamais. Lui, non, il tombe des nues. Dioclétien n'a jamais voulu se convertir, parce qu'il était, hein, il était content de se posséder par Satan. Ensuite, il l'a fait prendre un coup de fièche une première fois, blessé sans coup mortel, de nouveau guéri par notre Seigneur. Ensuite, il a dit, bon, on va l'acheter dans l'île. Il a donné ordre de l'acheter chez une grosse anse et la faire jeter dans le Tibre, le fleuve qui traverse Rome. Et puis, à ce moment-là, il y avait des milliers de païens sur la rive pour assister à ce spectacle. Deux anges vivement sont apparus, ont coupé la corde qui reliait l'anse quand elle tombait. L'anse est tombée au fond de la rivière. Et les anges ont pris Saint-Philomène, qui n'a pas une goutte, un vêtement mouillé par une goutte d'eau, et l'ont porté tout doucement comme une fleur jusqu'à la rive. Résultat, des milliers de païens sont convertis à la fureur de Dioclétien, évidemment, et ont été, beaucoup d'entre eux ont été martyrisés. Et on va en paradis. Ensuite, le Saint-Fleury l'a fait reflèche, reprend la, il a fait faire geler, reprend la flèche une deuxième fois. Cette fois-ci, plusieurs des flèches reviennent en arrière et blessent les archers, donc les gendarmes, les policiers, complices de cette saleté. Duquesne, en voyant ça, il est encore plus furieux. Il ordonne de faire mettre brûler les, de faire monter, brûler les fers des flèches rouges. Donc, pour brûler un peu de Sanders, c'est une la magie, etc. Cette fois-ci, toutes les flèches repartent en arrière à mi-chemin et tuent les soldats complices de ces ordres absolument abominables. Donc, les chiens, qui sait très bien que la prochaine flèche, ça sera pour lui, se cachent derrière un banc et puis donnent l'ordre de la décapiter tout de suite. C'est ce qui sera fait. Voilà, à peu près, l'histoire des saints de Philomène. La queue Sainte-Philomène, quand ses parents lui ont dit, ma fille, si tu sais très bien que si tu refuses la proposition de l'empereur de devenir son épouse, tu sais qu'il va intégrer notre royaume, tu seras responsable que on va tous être massacrés, nous aussi. Et puis elle a répondu, mon royaume, c'est le ciel, et mes parents, c'est Dieu et la Vierge Marie. Et ça passe, Dieu passe avant vous, mes chers parents. Et voilà, elle avait raison, et elle a raison. Et quand déjà à l'époque, beaucoup de maçons qui étaient infiltrés dans l'église, déjà, les trois pierres qu'on a trouvées sur sa tombe, c'était pas les bonnes tuiles, elles ont été remises à d'un autre endroit, donc c'est pas elles, on n'est pas sûr du tout, et puis ils ont tout fait pour insulter Sainte-Philomène. Ce à quoi Pie IX je répondais, la plus grande preuve de Saint-Pie X, la plus grande preuve de sainteté de Sainte-Philomène, c'est un, qu'elle a été colonisée, évidemment, de manière infaillible. Deux, c'est que la preuve de sa sainteté et son existence, c'est que c'est le Saint-Curé d'Ars. Parce que une certaine Pauline Géricault, qui a été guérie complètement par Sainte-Philomène, elle a porté ensuite une relique de Sainte-Philomène au Saint-Curé d'Ars, qui est très connu, qui s'est admis en France. Et le curé d'Ars, qui ne la connaissait pas ou très peu, à part sa canonisation, c'est de l'aimer beaucoup, sans la connaître. Et en recevant cette relique-là par les mains de Pauline Géricault, il est tombé vraiment amoureux d'elle, il l'a priée énormément, et Sainte-Philomène est apparue tous les jours de sa vie au Saint-Curé d'Ars, pour le guider, l'éclairer, lui montrer comment répondre, comment faire des choses, comment faire l'apostat, convertir des jeunes filles, convertir des personnes, etc. Voilà. Et donc Saint-Philomène est apparu tout le temps, et c'est elle qui faisait beaucoup de miracles, et Saint-Curé d'Ars disait que c'était elle qui faisait des miracles. C'est le Saint-Curé d'Ars, c'est tous les deux. Hein. Voilà. Voilà, je m'arrête là pour ne pas en dire plus, ça suffit largement. Donc, priez Sainte-Philomène, n'oubliez pas, ma fille, puisque tu n'as jamais dit non à mon divin Fils sur terre, lui ne te dira jamais non, non, en paradis. Et donc, profitez-en, demandez à cette petite sainte dont le corps est conservé à Mugnano del Cardinale, à côté de Nole, en Italie. Voilà. Que Dieu vous garde.